Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu perds la vie par le Smith & Wesson, chante le rappeur Luvresval. Smith & Wesson, sans doute l'un des noms d'armes les plus connus au monde avec la Kalachnikov, un nom qui fleure bon le western et les duels au six coups. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, on va voir qu'aux États-Unis, si l'époque des cow-boys révolue, celle des armes à feu ne s'est jamais aussi bien portée.
Ceci dit, mes jolis, posez votre artillerie.
Quoi ?
Parce que nous n'allons pas vous laisser partir comme ça.
Qui c'est, nous, connards ?
Smith, Wesson et moi.
L'Amérique de l'inspecteur Harry qui fait parler la poudre. Smith et Wesson, deux noms qui font d'une certaine façon l'âme de l'Amérique. D'une certaine Amérique en tout cas, celle qui use et parfois abuse du deuxième amendement. Celle aussi qui s'était illustrée il y a un an lors de l'assaut du Capitole à Washington. En cette période marquée par la crise sanitaire, on peut même dire que les Américains ont rarement autant usé de cet amendement qui leur reconnaît le droit de détenir des armes pour contribuer à la sécurité d'un État libre.
Quand ça fait bang, bing, oh là là, oh là là. Quand ça fait bon, bon, bon. Ça me met dans tous mes états.
Bonjour Nicolas Rollin.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes correspondant des Échos aux États-Unis, à New York, sans doute l'un des États les moins armés du pays. Et pour les Échos Week-end, vous vous êtes penché sur le succès de Smith & Wesson. C'est l'un des principaux fabricants d'armes à feu. L'action du groupe s'est envolée à Wall Street. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous. Mais d'abord, il y a ce chiffre. Selon le Congressional Research Service, il y a plus de 300 millions d'armes à feu aux États-Unis, presque une par habitant. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'armes ?
Alors, c'est en grande partie culturel. Près d'un foyer sur deux possède une arme aux États-Unis. Une majorité d'Américains restent très attachés à la liberté d'en posséder une. C'est pour eux un droit, une liberté fondamentale dont ils refusent de se passer. Alors la première motivation, quand on regarde un petit peu en détail, c'est la sécurité personnelle, c'est le fait de se protéger contre d'éventuels dangers, loin devant les activités de plein air, comme la chasse par exemple. Alors, il faut aussi savoir évidemment que l'accès à ces armes est assez facile. Aux États-Unis, et en particulier dans certains États, à peu près n'importe qui peut acheter une arme, les contrôles restent en général assez limités.
Mais tous les États ne sont pas logés à la même enseigne.
Oui, cela dépend vraiment des États, parce qu'il y a très peu de lois sur le sujet au niveau fédéral, et les législations ne sont pas les mêmes selon les États, voire selon les villes parfois. La Californie ou New York, par exemple, ont des législations très strictes. Se déplacer avec une arme y est très compliqué. À l'inverse, le Mississippi, l'Alaska ou le Wyoming, par exemple, ont des lois très permissives. Les contrôles y sont quasiment inexistants. Et il faut aussi souligner que ce sont les États où la mortalité par arme à feu est aussi la plus élevée.
On a beaucoup parlé dans les médias des résultats records de Pfizer et des groupes pharmaceutiques qui ont investi massivement pour trouver un vaccin contre le Covid. On a moins parlé des résultats de Smith & Wesson, mais 2021 a aussi été une année record pour les marchands d'armes ?
Oui, tous les marchands d'armes américains ont connu deux années exceptionnelles, 2020 et 2021. L'an dernier, par exemple, pour la première fois de son histoire, un marchand d'armes américain, donc Smith & Wesson, a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel pour un profit qui frôlait, lui, les 250 millions de dollars. Les ventes de Smith & Wesson ont encore progressé en début d'année, hein, plus 20% au premier trimestre de son année fiscale 2022. Et comme les exportations fonctionnent bien également, hein, les États-Unis exportent des armes vers d'autres pays, au total, ce sont 2,5 millions d'armes qui sont sorties de ces usines l'an dernier. Alors, hormis Remington, qui a été placé en faillite, mais qui connaissait des difficultés avant même la pandémie, tous les fabricants américains présentent des croissances extrêmement solides cette année.
Nicolas, pourquoi les ventes d'armes augmentent-elles ?
Alors, c'est des phénomènes assez complexes. Hein. Ça parle surtout à la psychologie des Américains. La crise du Covid a renforcé les peurs. On l'a vu dès les premiers jours du confinement, au printemps 2020, les ventes d'armes ont explosé. En mars 2020, par exemple, on a vendu deux fois plus d'armes aux États-Unis que sur la même période l'année précédente. Alors, certains redoutaient une flambée de violence, hein, un chaos qui se serait installé et se sont donc armés en conséquence. D'autres, au contraire, craignaient l'intrusion de l'État dans leur vie, la restriction des mouvements, le vaccin, etc. Donc des motivations différentes, mais qui ont abouti finalement au même résultat, l'explosion des ventes d'armes.
Ils sont arrivés avant même l'ouverture du magasin. Sur des dizaines de mètres, des habitants de Los Angeles qui attendent plusieurs heures pour acquérir une arme à feu. Une scène devenue habituelle depuis quelques jours. Avec la menace du coronavirus, ces Américains envisagent le pire.
Il y a moins de criminels dans les quartiers où les gens sont armés, assure notamment un quinquagénaire dans la file d'attente, tout en reconnaissant que ça ne sert à rien de paniquer. Dans ce reportage de France 24 du 20 mars 2020, ce mois-là, vous le disiez, 2 580 000 armes à feu se sont écoulées aux États-Unis, pratiquement une toutes les secondes. Sur l'ensemble de l'année, ce sont près de 23 millions de flingues qui ont trouvé un nouveau foyer.
Maintenant, lapin Sinoc, c'est ton tour! Allez, sortez de là ou je vous explose!
Elmer a rangé ses armes aux États-Unis, je ne sais pas si ça suffira. Il y a un effet Covid, un effet confinement, c'est ce que vous nous disiez, Nicolas, mais ce n'est pas la seule raison.
Oui, alors il faut d'abord ajouter à cela des vagues de violence qu'ont connu les États-Unis. Il faut se rappeler qu'en mai 2020, suite à la mort de George Floyd, les grandes villes américaines ont connu des manifestations violentes qui ont pu augmenter chez certains le sentiment d'insécurité. Et puis, il y a eu l'élection présidentielle il y a un an. Et ce que l'histoire démontre, en fait, c'est que les ventes d'armes aux États-Unis augmentent dès qu'un président démocrate est élu. Alors, c'était déjà le cas lors de la prise de pouvoir de Bill Clinton ou de Barack Obama. Et ça s'est répété, évidemment, avec Joe Biden. En fait, ce qui se passe, c'est que les Américains anticipent le vote de réglementation plus restrictive envers le port d'armes, et ils se précipitent donc dans les armureries avant qu'une nouvelle loi ne soit votée. Ce qui, au passage, peut sembler un peu irrationnel, car en fait, on s'aperçoit qu'aucun président démocrate, que ce soit Clinton, Obama ou aujourd'hui Biden, n'a réellement obtenu des avancées ces dernières années en matière de régulation des armes.
Smith & Wesson a donc connu une année record. Son cours de bourse s'est même envolé, en même temps que Wall Street. Smith & Wesson, c'est vraiment un nom qui fait référence dans les armes à feu ?
Oui, aux États-Unis, c'est vraiment une icône de l'industrie, mais aussi de la culture américaine. Smith & Wesson, c'est une entreprise qui a 170 ans. La société a été créée en 1852 par Horace Smith et Daniel Wesson. Ces deux entrepreneurs vont alors combiner plusieurs innovations récentes dans un seul modèle. Ils réunissent dans ce modèle le chargement de l'arme par l'arrière, la cartouche métallique, le barillet. Ils vont racheter petit à petit des brevets et au final, ils vont lancer une arme légère, très facilement maniable, efficace. Le succès est donc tout de suite au rendez-vous. Les commandes s'enchaînent, notamment de la part de l'armée ou de la police. Et Smith & Wesson exporte son modèle à l'international. La marque ne veut toutefois pas dépendre d'un seul marché. Elle va viser très tôt les particuliers. Et puis, surtout, elle va rentrer dans la légende grâce au cinéma. Elle va placer ses produits dans les westerns. Ses revolvers vont être immortalisés, notamment par Clint Eastwood dans L'Inspecteur Harry. Et puis, à partir des années 60, alors que la famille Wesson vend ses parts, l'entreprise décline progressivement. On va lui préférer des modèles d'armes européens. Smith & Wesson va même éviter de peu la faillite au début des années 2000, avant de se redresser donc, ces dernières années.
Mais c'est vrai que les résultats ont été bons depuis 2 ans, notamment grâce à un effet pandémique, on va dire. Mais c'est vrai que, vous le disiez, le groupe a connu auparavant des difficultés et il s'est plutôt restructuré ces dernières années. Ça l'a aidé, là aussi, à traverser la crise ?
Oui, il y avait une décision assez forte hein, il y a quelques années. Smith & Wesson s'était diversifié, notamment dans les loisirs de plein air, la chasse ou la pêche. Donc, il vendait aussi du matériel de... Pas de chasse, évidemment, mais aussi de pêche. La société s'était même choisi un nouveau nom, s'appelait American Outdoor Brands, censé être plus familial. Et puis, il y a 2 ans, la direction a décidé de sortir ses activités de chasse et de pêche du périmètre de l'entreprise. Ce spin-off a été coté sur le marché. Et Smith & Wesson, de son côté, a retrouvé son nom. Alors, il y avait une autre raison hein, de ce mouvement, c'est que certains actionnaires ne voulaient plus être associés à un marchand d'armes. Certains fonds d'investissement ne voulaient plus, pour des raisons éthiques, être associés à un marchand d'armes. Donc, Smith & Wesson s'est divisé en 2 entreprises, American Outdoor Brands d'un côté et Smith & Wesson vraiment focalisé sur les armes individuelles. Et l'entreprise a du coup retrouvé une certaine agilité. Son patron affirme aujourd'hui qu'elle est capable de s'adapter très rapidement au renversement du marché. Elle fait aussi appel à de nombreux sous-traitants, ce qui fait qu'elle n'a pas à embaucher ou à licencier en cas de crise. Elle peut s'adapter assez vite et surtout elle produit en grande majorité aux États-Unis, ce qui fait qu'elle a été assez peu touchée par les soubresauts du commerce mondial ces derniers mois et notamment par les perturbations de la chaîne logistique.
Le groupe a pris aussi une décision importante. Il va quitter son lieu d'origine, Springfield, une ville de 150 000 âmes dans le Massachusetts, où la société fut fondée en 1852. Pour quelle raison, Nicolas ?
Oui, alors le Massachusetts, donc, qui est l'État qui accueillait le siège de Smith & Wesson et de beaucoup, beaucoup d'autres fabricants d'armes. Hein. Historiquement, ils s'étaient installés là il y a très longtemps. À l'automne, en fait, la direction a annoncé qu'elle déménageait son siège vers le Tennessee, un État du Sud beaucoup plus laxiste dans sa régulation des armes. En fait, Smith & Wesson se sentait menacé par un projet de loi de l'État du Massachusetts qui aurait interdit à tout fabricant de produire des armes semi-automatiques. Or, c'est une activité qui génère aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle pouvait se sentir menacée, mais en fait, la décision elle est beaucoup plus symbolique car la loi elle-même n'avait pas encore été adoptée, n'a toujours pas été adoptée. Et la société produit déjà une grande partie de ses armes dans d'autres États. Donc le projet de loi, s'il est adopté, ne frapperait Smith & Wesson vraiment que partiellement. En fait, dans le Tennessee, Smith & Wesson va surtout avoir une fiscalité beaucoup plus avantageuse et un droit du travail beaucoup plus souple. Il n'y a quasiment pas de syndicats dans le Tennessee. Et au niveau des impôts, c'est évidemment avantageux. Smith & Wesson pourrait économiser une centaine de millions de dollars par an, rien qu'avec ce déménagement.
Le 20 avril 1999, 2 garçons de 18 ans font irruption dans la cafétéria de leur lycée de la banlieue de Denver, dans le Colorado. Ils sont armés de fusils, de pistolets automatiques et de grenades artisanales. En une demi-heure, ils vont traverser l'établissement et tuer sur leur passage 12 élèves et un professeur avant de se suicider dans la bibliothèque du lycée, encerclés par la police.
C'était il y a 22 ans la fusillade de Columbine dans une école secondaire du Colorado. Ce drame a profondément marqué l'Amérique. Il a posé la question d'un meilleur contrôle des armes à feu. 22 ans après, les fusillades se sont accumulées, notamment dans les écoles. 22 entre 2000 et 2018. Il y en a encore eu une fin novembre dans le nord des États-Unis, à Oxford. Hein, c'est l'État du Michigan. Un jeune de 15 ans qui a tué 3 élèves. Nicolas, où en est aujourd'hui le débat sur les armes à feu aux États-Unis ?
Alors en effet, c'est un débat qui revient régulièrement. Hein. À chaque tuerie, les appels pour une plus grande régulation se multiplient. Il y avait eu notamment une tuerie assez marquante il y a quelques années en Floride, dans un lycée. Alors l'opinion publique a un peu évolué sur le sujet, hein, voyant les bilans sanglants s'alourdir, sans toutefois qu'il y ait vraiment une remise en cause fondamentale du sujet. S'ils sont favorables à une régulation accrue, les Américains restent quand même attachés à la liberté de posséder une arme. Donc en fait, dans le débat, les questions concernent davantage des sujets qui pourraient nous paraître mineurs, comme le contrôle des antécédents des acheteurs, la liberté ou non de pouvoir acheter des armes semi-automatiques, ou encore l'accès des armes aux mineurs. Mais le port d'armes en tant que tel, il n'y a pas vraiment de débat en fait sur le sujet.
Ouais, on entend Madonna ici avec God Control, mais aussi Eminem, Sheryl Crow, Snoop Dogg. Ils ont chanté et même manifesté contre les armes à feu. Pourquoi est-ce qu'aucun président n'est parvenu à imposer un contrôle plus strict? Et je ne parle pas bien évidemment de Donald Trump.
Alors bon, d'abord, il faut savoir que l'opinion publique est bien plus divisée sur le sujet que ne pourraient le laisser penser les stars qui ont pris position sur le sujet. Mais il y a aussi très clairement un puissant lobby des armes qui finance de manière importante la vie politique américaine. Or, ce lobby, il est surtout regroupé dans la NRA, la National Rifle Association, qui défend une ligne très dure et ne veut entendre parler d'aucun projet de réglementation. Et ce lobby finance les campagnes de très nombreux politiciens, alors dans le camp républicain surtout, mais aussi chez les démocrates. Et donc, pour un président qui voudrait changer les choses, il est très très difficile d'obtenir le soutien du Congrès sur le sujet. Enfin, on l'avait évoqué en début de sujet, mais une grande partie de la réglementation repose sur les États, pas du gouvernement fédéral. Et les États du Sud, les États républicains notamment, ne voteront sans doute jamais un durcissement des règles.
Je me souviens d'un article de Nessim Haït Kassimi dans Les Échos qui montrait que les cours des fabricants d'armes baissaient en bourse les jours de fusillade, les investisseurs craignant une réglementation durcie qui n'est jamais arrivée, on l'a vu. Plus il y avait de morts et plus les actions baissaient. Comment est-ce que les fabricants d'armes réagissent-ils à ces drames?
Alors oui, ça peut arriver, c'est pas toujours aussi simple. Parfois, lors des drames, les ventes d'armes augmentent parce que les gens anticipent une possible réglementation. Et du coup, ça peut aussi avoir des effets positifs sur l'activité des marchands d'armes et sur leur cours de bourse. En fait, les études montrent que ces tragédies, elles ne font que renforcer les convictions de chacun. Les pro-armes se sentiront davantage pro-armes et les anti-armes se sentiront davantage anti-armes. Et en fait, ces tragédies, elles ne font absolument pas bouger les lignes. Alors les fabricants d'armes, eux, ils ont tenté de se montrer conciliants hein, par le passé, en sentant le vent du boulet suite à certaines tragédies. Ce fut notamment le cas de Smith & Wesson, hein, c'était au début des années 2000. La société avait signé un code de bonne conduite avec l'administration Clinton. Alors elle était d'accord pour développer des armes intelligentes, éviter la manipulation d'armes par des enfants, renforcer les sécurités. Mais en fait, la NRA était montée au créneau. Cette puissante organisation avait appelé au boycott carrément de Smith & Wesson. L'ancien patron de la société avait été menacé et les ventes du fabricant avaient chuté à tel point qu'il avait dû licencier une partie de ses effectifs. Pour éviter la faillite, Smith & Wesson avait finalement fait marche arrière. Son PDG avait été démis de ses fonctions et le code de bonne conduite donc n'a jamais vu le jour du fait du changement de direction, du changement d'actionnaire aussi de Smith & Wesson. Et puis, quelques mois après cet épisode, Clinton était remplacé par George W. Bush qui, lui, avait d'autres priorités que la réglementation des armes.
Merci Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York, pour ce décryptage du succès de Smith & Wesson et sur la frénésie américaine pour les armes à feu. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox ou encore Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.